Philippe Rossello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur et animateur du Grec Sud. Vous l'aurez compris, ce matin, on parle de nouveau de climat alpin. Ce colloque qui aura lieu ces 6 et 7 décembre à Barcelonnette autour d'un thème « Vivre et travailler en Ubaye en 2050 ». Philippe Rossello, vous êtes géographe, spécialiste du climat, du changement climatique et de la qualité de l'air. Justement, on parle beaucoup du changement climatique, mais peu de la qualité de l'air qui découlera des changements. Qu'est-ce qu'on peut en dire, et notamment dans les Alpes ?
Donc oui, la pollution de l'air est un vrai enjeu de santé publique dans les Alpes comme ailleurs. Ce sont principalement les Alpes du Nord qui sont concernées par cette pollution dans les vallées, due au transport, due aux industries, due au chauffage. Les Alpes du Sud sont un peu préservées, sont même préservées par rapport aux Alpes du Nord, c'est une chance. Mais il y a, comme je disais, un enjeu de santé publique et il faut y faire très attention. Le changement climatique va contribuer au renforcement de la pollution de l'air, des concentrations parfois en fonction des types de temps. Mais c'est une problématique d'aujourd'hui, d'hier, et il faut s'en saisir dès maintenant.
Joël Guillot expliquait hier sur Alpe 1 que le réchauffement climatique, ce sera dans les Alpes du Sud, plus 0,3 degrés tous les 10 ans, et notamment des changements qui interviendront principalement en été. On suppose aussi que c'est ce qui se passera pour la qualité de l'air également. L'été saturé, et l'hiver également saturé, notamment du côté des stations de ski, avec un afflux massif des touristes.
Oui, alors, si vous voulez, alors, Joël a tout à fait raison, hein, on aura d'ici 2050 environ 1 degré de plus par rapport à aujourd'hui, en moyenne, hein, donc ça va changer beaucoup de choses dans les Alpes. Au niveau de la pollution de l'air, écoutez, il y a eu des campagnes de mesures, comme aux Aurs par exemple, il y a quelques années, avec des mesures lors de l'arrivée des touristes dans la station. Alors il y a effectivement une augmentation des concentrations de polluants, mais de manière très ponctuelle. Et il va surtout falloir faire attention en fait, en hiver par exemple, lors des épisodes anticycloniques, parce que les particules en suspension sont piégées dans les fonds de vallée. Et si on a une augmentation de ces conditions anticycloniques, on aura une augmentation de cette pollution de l'air aussi. Mais je le répète, hein, quand même, heureusement, les Alpes du Sud sont quand même préservées par rapport aux Alpes du Nord et au reste de la région sud.
On parle beaucoup aussi de la disparition du permafrost.
Eh bien oui, donc comme il y a une augmentation de la température, eh bien le sol gelé, enfin la glace qui est dans les sols tend à fondre. Et on va vers des risques naturels accrus avec des glissements de terrain, par exemple.
Donc ce sera ça principalement les conséquences de la disparition du permafrost, plus de phénomènes exceptionnels.
Eh bien, ce seront plus de glissements de terrain. Si on a des pluies importantes aussi avec ces glissements de terrain, eh bien, on peut avoir donc les cours d'eau qui pourraient se charger en boue, se charger en blocs de pierre, et puis bien sûr avec des débits très importants et avec des conséquences dévastatrices hein, sur les ponts par exemple, les débordements, ça pourrait aller dans les villages, etc. Donc ce sont voilà, c'est un vrai risque. Il faut être prudent, vigilant sur cette question-là.
Tout cela, on a l'impression déjà d'y toucher dans les Alpes du Sud avec les intempéries de ces derniers jours, de fortes précipitations, avec des montées d'eau, une personne qui est décédée dans les Alpes d'Haute-Provence. Du côté d'Aimé, c'est un rocher qui s'est complètement effondré, qui a provoqué un éboulement sur plusieurs maisons. On a quand même l'impression déjà de toucher quelques changements.
En fait, le changement climatique est en cours. Hein. C'est aujourd'hui, ce sera demain. Et effectivement, les événements climatiques extrêmes ont tendance et auront tendance à se multiplier avec des épisodes pluvieux très importants, avec voilà, des débordements de cours d'eau, avec des inondations. Alors, pour les mets, il est encore trop tôt pour se prononcer, mais c'est probablement dû à une fragilisation de la roche, après l'ensemble de ces précipitations de ces dernières semaines, mais peut-être aussi de ces dernières années à voir. Hein. Mais voilà, il faut retenir le fait que les événements extrêmes vont se multiplier et avec malheureusement des victimes et des dégâts.
Ce qui impliquera aussi aux communes de mieux s'adapter.
Alors ça, c'est vraiment l'un des enjeux et c'est un message à transmettre. Oui, les communes doivent s'adapter au changement climatique, doivent aussi faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets du changement climatique. Mais l'adaptation est une phase déterminante pour protéger la population.
Vous avez publié en 2017 un rapport sur le devenir de la ressource en eau en PACA. Et on en parle beaucoup de la ressource en eau, et notamment de la ressource en eau l'été, puisqu'il y a des conflits d'usage qui s'ouvrent aujourd'hui entre à la fois le domaine touristique et puis aussi les agriculteurs qui demandent à irriguer cette ressource en eau. Est-ce qu'elle est menacée à plus ou moins de terme, plus ou moins à moyen terme?
Alors, d'ici 2050, d'après les chercheurs, on ne devrait pas manquer d'eau. Alors, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que à l'avenir, alors même avant 2050 et après 2050, les étés vont démarrer plus tôt. La sécheresse sera plus marquée aussi en été parce que les précipitations sont principalement hors saison estivale, donc automne, hiver et printemps. Mais voilà. Mais ce qu'il faut voir, donc ça veut dire que l'été, s'il fait plus chaud, s'il y a moins d'eau, eh bien les débits des cours d'eau seront faibles. Ça aura des conséquences sur l'agriculture, sur le tourisme, etc. Et sur le partage de l'eau, c'est un vrai enjeu aussi, parce que si on arrive dans une situation de pénurie, eh bien, comment vont réagir les acteurs alpins, les agriculteurs par exemple, comment ils vont se partager l'eau. Donc oui, c'est un enjeu majeur, c'est un questionnement, et on ne sait pas trop, en l'absence de réglementation, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà.
Vous développez aussi des solutions techniques en faveur de l'adaptation au changement climatique. Elles ressemblent à quoi ces solutions, notamment dans les Alpes, en ce qui nous concerne?
Alors sur les ressources en eau?
Sur le changement climatique en règle générale.
Alors ce sont de nouvelles pratiques, ces pratiques d'adaptation. Alors si on commence sur les ressources en eau, c'est éviter le gaspillage en eau, c'est peut-être l'irrigation goutte à goutte par exemple. C'est pour le tourisme, eh bien ça va être une transformation quand même radicale pour les stations qui sont en dessous de 1800 mètres d'altitude, parce que il sera difficile d'avoir un enneigement fiable naturel en dessous de cette altitude-là. Et même au-dessus, il faudra compter sur la neige de culture. Ensuite, au niveau des transports, un transport qui est un vrai problème dans les territoires alpins, parce que finalement, la voiture est le moyen de transport le plus utilisé, faute de moyens de transport en commun efficace, rapide, fréquent. Donc il y a aussi l'énergie, ça va passer par les énergies renouvelables, mais alors c'est comme tout à l'heure on parlait de pollution de l'air, c'est comme si on va vers le chauffage au bois, et bien ce chauffage au bois, en l'absence de chaudière bien réglée, et bien produit des particules en suspension et donc altère la santé des alpins.
Vous parlez de transformation radicale et de neige de culture, notamment au-dessus de 1800 mètres d'altitude pour les stations. Est-ce que, quand même, ce sera pérenne de compter sur cette neige de culture au-dessus de 1800 mètres d'altitude? Est-ce que là, on n'est pas un peu dans une certaine hérésie touristique?
Alors, ça va dépendre des différents scénarios socio-économiques, c'est-à-dire de notre manière de produire et de consommer à l'avenir. Alors, pas seulement à l'échelle des Alpes du Sud, mais à l'échelle planétaire. Mais d'après les dernières études, si on n'est pas sur le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire que si on ne fait rien, on continue à consommer, à utiliser les énergies fossiles comme aujourd'hui. Donc si j'exclus ce scénario-là, on devrait pouvoir compter sur un enneigement naturel et la neige de culture au-dessus de 1800 mètres. Et avec, souvenons-nous quand même aussi, il y a la variabilité interannuelle du climat méditerranéen qui fait que nous aurons des bonnes années avec un enneigement correct et puis des années très difficiles où il n'y aura pas de neige.
Voilà. Ça, c'est pour le scénario qui est optimiste. Si on ne change rien, par contre, le scénario deviendra pessimiste.
Alors, si on ne change rien, il deviendra pessimiste. Et là, c'est, c'est 4 stations sur les 23 actuelles dans les Alpes du Sud et qui pourront encore proposer du ski.
Oui, selon l'un de vos rapports, ce serait donc Montgenèvre, Saint-Véran, puis Saint-Vincent et Orcières. Merci beaucoup. Merci Philippe Rossello d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes coordinateur et animateur du Grec Sud. Vous serez donc du côté de Barcelonnette, c'est 6 et 7 décembre pour Climalp, un colloque qui se tient sur vivre et travailler en Ubaye en 2050 face au changement climatique. Merci beaucoup.
Merci à vous.